France Inter, le 18-20.
Eh bien, bon appétit alors, puisque France Inter s'est mis à table toute la journée, à vous, au téléphone sonne, d'assurer le repas du soir que vous êtes peut-être en train de préparer. Maintenant, faites une pause et imaginez-vous dans votre cuisine, la même, en 2030, en 2040. Alors, moins de viande peut-être, parce qu'on a compris qu'il fallait préserver les ressources autant que l'environnement, plus de bio peut-être, parce qu'on a repensé intégralement notre alimentation et que l'agriculture biologique est devenue dominante. Peut-être des produits forcément industriels, ne rêvons pas, mais de meilleure qualité, parfaitement tracés. Et sinon, qu'est-ce que vous diriez d'une soupe d'algues en entrée pour les protéines? Je vous épargne les 50 chenilles qui sont l'équivalent d'un blanc de poulet. Et passons aussi, après tout, mais allez savoir, sur les fameuses pilules de soleil vert. C'est l'image en tout cas qu'on avait dans les années 70 de notre futur, preuve que finalement, tout ne va pas si mal puisqu'on adore encore manger. Bref, au train où vont les choses et en vertu des choix qui sont les nôtres, que voulez-vous manger? Que souhaiteriez-vous manger en 2030, en 2040? France Inter met les pieds dans le plat. Est-ce que vous, vous êtes dans votre assiette? Servez-vous, c'est parti.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Et Charles, et bien bon appétit Charles. C'est vous le premier, soyez le bienvenu sur France Inter.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je démarre pour... Je pose pas une question aux intervenants, c'était une remarque notamment liée à, aux nouvelles alimentations, viande synthétique, insectes, algues. Pour moi, nous sommes condamnés à manger ce genre de choses, puisque on sait bien qu'il y a une perte de sol agricole énorme à travers le monde et en France. En fait, l'équivalent d'un département de terres agricoles est perdu par l'industrialisation, les routes, l'habitat, tous les 5 ou 7 ans. Donc nous avons deux solutions, soit nous décroissons démographiquement ou on décroît industriellement, ou alors, comme c'est pas tellement à l'ordre du jour, nous allons être condamnés à manger du steak in vitro, des insectes, des algues, voire même le Solent, qui fait quand même fureur dans la Silicon Valley. C'était une remarque.
Le soleil dont on a parlé tout à l'heure dans Un jour dans le monde, donc cette petite poudre qui parvient à rassasier tout le monde. Merci pour vos remarques, Charles, et vous entrez de plein pied dans le débat, bravo. Pour vous répondre et pour participer à ce téléphone sonne ce soir, Thierry Pêche est là, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général du think tank Terra Nova, vous avez sorti tout récemment une étude fort intéressante sur la viande, l'idée qu'il faudrait diviser par deux notre consommation, pour le bien aussi des éleveurs d'ailleurs, et on aura forcément l'occasion d'y revenir. Éric Birlouez est là également, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur agronome, sociologue de l'agriculture et de l'alimentation. Alain Bazot, autour de la table également, président de l'UFC Que Choisir.
Bonsoir.
C'est avec vous, l'ingénieur agronome, tiens, que j'ai envie de commencer avec la question de Charles, qui dit d'abord, nous sommes condamnés de toute façon à manger autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de
Alors,
ça?
Alors, pas forcément condamnés, en tout cas, à mon avis, je vois pas du tout la viande synthétique, d'ailleurs qui n'a de viande que de nom, les algues ou les insectes, s'installer durablement dans notre consommation. Peut-être une des premières choses qu'on peut imaginer pour résoudre les problèmes alimentaires, c'est tout bêtement, je dirais, de lutter contre les pertes et le gaspillage alimentaire. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un tiers de la nourriture qui est produite sur la planète est ou perdue, surtout dans les pays du Sud, par manque d'infrastructures, de chaînes du froid, de moyens de transport et de conservation, et puis de gaspillage, évidemment, dans nos pays. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, bien sûr, mais ça, on va en parler, on peut réfléchir à la manière d'essayer de nourrir toute la population. Juste un petit mot, puisque c'était évoqué, peut-être sur la viande synthétique.
La viande in vitro, comment on dit.
In vitro. Alors, ça n'a de viande que de nom, car en tout cas, ce que l'on connaît aujourd'hui, ce sont des cultures de fibres musculaires, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la viande. La viande, certes, c'est des fibres musculaires.
Pardon, ça a quel goût? On sait quel
c'est
goût ça a.
C'est du nerf, c'est des vaisseaux. Alors, ça a été goûté, mais il a fallu rajouter de l'œuf déshydraté, du jus de betterave, du safran, etc. Non, je crois que... Alors, ce qui est assez, finalement, amusant quand on regarde les choses, c'est que les adeptes de cette future viande synthétique leur disent, on va pas tuer des animaux, donc c'est évidemment super de faire ça, sont souvent en même temps des adeptes du naturel. Il n'y a pas plus artificiel que cette viande synthétique que l'on fait pousser pour le moment à coup d'hormones, de facteurs de croissance, d'antibiotiques, etc. Et puis pour les algues et les insectes, en un mot, c'est pareil. Quelle est l'acceptabilité culturelle, chez nous en tout cas, de ces aliments que nous n'avons absolument pas l'habitude de consommer?
Mais on y viendra, parce que quand on parle d'algues et d'insectes, on parle pas seulement de manger subitement un cafard. On parle aussi de ce qu'on en fait, des protéines que ça donne et à qui on donne aussi ces protéines. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Thierry Pech, ce que j'entends aussi dans la remarque de Charles, c'est de toute façon, il y a une perte de sol. Donc ça veut dire qu'à terme, de toute façon, on n'aura plus d'espace. En tout cas, on aura mangé tout notre espace, en fait.
Écoutez, ça, je pense qu'il ne faut pas noircir le tableau. C'est sûr que les terres agricoles sont sous stress puisqu'elles sont concurrencées par d'autres usages, en particulier la ville, l'extension des villes, etc. Et que même entre les terres agricoles elles-mêmes, il y a une concurrence entre des usages alimentaires, des usages alimentaires directs quand on y fait pousser des céréales, par exemple, des usages alimentaires indirects quand c'est pour nourrir des bêtes qu'ensuite on mange, et puis des usages énergétiques, par exemple, si vous faites des essences végétales ou des choses comme ça. Bon, il ne faut pas noircir le tableau parce qu'au fond, on pourrait mieux utiliser ce qu'on a. C'est quand même ça qu'il faut commencer à dire. Vous savez qu'il faut à peu près 200 kilos de céréales pour nourrir une personne en lui évitant les carences majeures en vitamines, en oligo-éléments, etc. On en produit aujourd'hui 330 kilos par personne. Donc on a d'abord un problème de répartition. À l'horizon de 2050, on sera probablement 9 milliards, entre 9 et 10 milliards d'individus. La FAO nous dit on peut nourrir ce monde-là si on s'y prend autrement, si on alloue mieux nos terres. La grande concurrence se fera sur les protéines. C'est ça qui sera vraiment le plus disputé. Ce n'est pas sur les lipides ou les glucides, c'est sur les protéines. Or, on peut subvenir à nos besoins de façon beaucoup plus efficace en développant les protéines végétales. Avant même de parler des insectes et des choses comme ça, il y a des protéines végétales qu'on connaît dans les légumineuses, par exemple, les céréales. Bon. On peut exploiter ça mieux et il y en aura pour tout le monde. En revanche, si on reste dans nos modes de consommation et de production actuels, il n'y en aura pas pour tout le monde.
Alain Bazot, je vous voyais président de l'UFC Que Choisir, je vous voyais approuver ce que disait à l'instant Éric Pech.
Thierry Pech,
pardon.
Oui, effectivement, je suis d'accord sur l'idée que l'enjeu sera autour des protéines et que la protéine végétale prenne plus de poids par rapport à la protéine animale. Et il y a des études, des prospections qui sont faites là-dessus. Cela dit, il est vrai aussi qu'il y aura un arbitrage sur l'utilisation des sols agricoles, reconquérir des sols qui sont plus vivants. Donc là, c'est toute la transition d'une nouvelle agriculture qui tarde à venir. On voit bien que la reconversion, les aides de la PAC, on voudrait qu'ils soient massivement sur l'aide à la reconversion. On a une politique agricole qui date des années 60 et produire beaucoup, produire intensif. Et on voit bien qu'on menace la ressource en eau. On utilise beaucoup de terres parce que pour produire de la viande, il y a un peu une aberration économique. Donc voilà, je pense que l'enjeu sera autour de ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore à l'aune de cuisiner des
morceaux de plastique, ou je ne sais quel insecte et autres algues.
Que sais-je.
J'ai pour l'instant envie de dire, et heureusement, Christian nous appelle au 01 45 24 7000. Christian, bonsoir, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Écoutez, moi je veux être un peu plus terre à terre. Je ne suis pas du tout dans le milieu agricole. Je suis infirmier libéral en Haute-Normandie, en campagne, ça fait 40 ans. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que quand j'entends la journaliste qui présentait votre émission tout à l'heure et qui disait qu'est-ce qu'on voulait dans nos assiettes, moi, je pense que...
C'était moi, je crois.
D'accord. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on pourra avoir dans nos assiettes? Je vous explique en trois mots. J'ai trois patients qui sont agriculteurs, qui sont paysans, dont un qui a une quarantaine d'années. Il est au RSA. Il a une carte CMU. Voilà, c'est un type qui travaille 10 heures par jour. Et je pense que on traite nos paysans comme jamais on les a traités. Et les deux autres qui sont proches de la retraite, on leur a dit soit on vous met au RSA et vous continuez comme ça. Et ou alors on vous met en retraite anticipée. Voilà, c'est ça la situation de la paysannerie en France, c'est celle-là.
Merci beaucoup pour ces remarques, pour ce témoignage, Christian. Et c'est vrai que les agriculteurs, les éleveurs en France vivent mal aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Thierry Pech, c'est un peu le sens de ce que... Alors, pas tous, effectivement, voilà, pas tous, mais un certain nombre, effectivement, vivent pas bien. Thierry Pech, c'est un peu le sens de ce que vous écrivez quand vous dites qu'il faut diviser par deux la consommation de viande. De toute façon, dites-vous, et c'est vrai, la plupart des éleveurs ne vivent pas bien. Donc, diviser le nombre de la viande par deux, ça veut pas dire que on en veut aux agriculteurs. Au contraire, c'est une manière de produire mieux, finalement.
Oui, il faut quand même s'expliquer, parce qu'a priori, ils vont pas prendre ça pour une bonne nouvelle. Il faut partir...
faut c'est un peu plus subtil que ce que je viens de dire.
Le paradoxe actuel, c'est qu'on n'a jamais mangé autant de viande dans l'histoire du monde, et les éleveurs vont mal, les éleveurs français. Pas vrai de tous les éleveurs en Europe, mais enfin, ça reste une condition difficile. Donc là, il y a quelque chose qui ne marche pas, si vous voulez. Le productivisme a produit une espèce de piège dans lequel sont enfermés quantité d'exploitants. C'est-à-dire,
c'est aider à produire mieux pour en vivre, en gros, pour être très clair.
Est-ce qu'on peut faire le pari, c'est ça qui nous intéresserait, qu'on peut en manger deux fois moins et deux fois mieux? Est-ce qu'on peut faire le pari qu'en aidant les éleveurs à aller vers une agriculture plus raisonnés, à remettre leurs bêtes sur les pâturages quand elles sont dans des bâtiments. Est-ce que on peut faire le pari qu'ils pourront vendre leur production plus cher, protéger leurs marges et vivre mieux? On a besoin d'eux. On peut pas imaginer, Christian a raison, on peut pas imaginer demain se nourrir s'il n'y a pas des gens pour produire les commodités alimentaires, comme on dit techniquement, des céréales, de la viande, des légumes, etc. Actuellement, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que le système est totalement dysfonctionnel, parce que c'est vrai qu'il y a en aval de leur travail des gens qui captent une partie de leur marge, et ça, c'était le débat des états généraux de l'alimentation. J'espère que des mesures seront prises pour les protéger. Parce que la politique agricole commune a quand même été conçue comme une politique productiviste de la fourche à la fourchette et pas l'inverse. Bon, il faut changer un peu de paradigme. C'est pas facile parce qu'il y a une très forte inertie à la fois des modes de production, des modes de consommation. Donc il faut qu'ils puissent se donner du temps pour passer, pour franchir cette transition alimentaire et agricole de façon supportable. C'est pas simple, hein. Mais je pense que si on dessine pas un cap clair pour tout le monde, alors c'est quasiment impossible. Donc on a proposé ce cap pour la viande. Il n'y a pas que le problème de la viande. Quand Christian s'exprime, il ne parle pas que des éleveurs.
Non, d'ailleurs, ce ne sont pas forcément des éleveurs dont il parle à l'instant. Éric Birloez.
Oui, c'est intéressant ce que dit Christian. On ne l'entend pas souvent, mais il y a vraiment effectivement ce paradoxe quand il parle de ces patients qui sont agriculteurs et qui sont au RSA et qui sont eux-mêmes en situation de précarité alimentaire. On sait qu'il existe aujourd'hui des agriculteurs qui vont dans les épiceries solidaires, etc. Et au niveau mondial, on sait que 80% des 800 millions de personnes qui souffrent de la faim sont des pays, c'est-à-dire des gens dont le métier, c'est de produire de la nourriture. Donc, c'est un énorme paradoxe. Alors, vous disiez, à juste titre, on est quand même dans cette tendance où il faut consommer moins, globalement, en tout cas dans nos pays, bien évidemment.
J'allais dire, et dans nos pays, mieux. Ce qui fait aussi peut-être tout le différentiel et toute la différence.
Oui, ce qui fait toute la différence. Parce que, par exemple, quand on remet en cause, certains remettent carrément en cause l'élevage, il faut bien avoir en tête que la disparition, l'abolition de l'élevage serait une catastrophe totale pour les 2 milliards de personnes qui vivent, enfin les 1,3 milliard de personnes qui vivent de l'élevage, et qu'on trouve notamment dans les pays du Sud, où le fait d'avoir quelques animaux, quelques bêtes, c'est une source de revenus, c'est un engrais, alors là on ne peut plus naturel, un moyen de transport, un outil de traction pour les outils agricoles, etc. Donc je pense qu'effectivement il faut savoir raison garder, et la tendance c'est... Dans nos pays, mangeons moins, davantage certainement de protéines végétales que de protéines animales, mais pas de radicalisme, parce que, à mon avis, on va complètement dans le mur. Et je termine en disant, c'est de toute façon une tendance structurelle. En France, ça fait 40 ans, précisément depuis 1980, que nous diminuons collectivement notre consommation moyenne de viande rouge. Oui, et depuis 1998, la viande dans son ensemble. Donc il y a un mouvement.
Sauf qu'à l'inverse, dans les pays émergents, plus on émerge, plus on consomme de viande.
Au niveau mondial. Alors ça, c'est une loi absolument universelle. Quand le revenu augmente, les pauvres ont toujours rêvé d'une chose, c'est de manger de la viande, qui est l'aliment du riche, qui est l'aliment noble, prestigieux, et qui est l'aliment de la puissance, de la force physique.
Disait qu'il fallait manger du poulet toutes les semaines. Mais on remarque quand même que dans les filières, les filières qui font de la qualité, prenez le poulet label rouge, il se porte très bien. La question, c'est de savoir, on veut produire quoi et pour qui. Si on veut se mettre à concurrencer le poulet thaïlandais, on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a des prix mondiaux qui fait que de toute façon, on n'y arrivera pas avec les salaires en France, les charges, les préoccupations environnementales. Donc il faut avoir quand même une stratégie, savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et il ne faut pas oublier que l'arbitre final, ça va être le consommateur. Et le consommateur, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'une visibilité sur ce qu'il mange. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde... Il ne faut pas oublier que le consommateur mange entre 60 et 90% des produits transformés, des produits industriels. Donc la réalité, elle est là, de ce qu'on mange aujourd'hui. C'est pas l'escalope qu'on fait avec un bon poulet ou du veau ou du bœuf ou que sais-je, ou des bonnes côtelettes d'agneau de présalé du Mont-Saint-Michel, etc. C'est pas ça la réalité. Presque 90%, ça oscille. On mange du produit transformé, du produit industriel. Bon, donc la question, c'est quand même savoir qu'est-ce qu'on met dans ces recettes. Et il y a quand même un problème d'opacité qui s'est construite au fil du temps. L'industrie agroalimentaire a eu l'habitude d'avancer masquée. Je prenais un exemple d'exemple de contenu d'ingrédients dans une saucisse. Allez-y. Une saucisse basique, 15 ingrédients et additifs. Avec évidemment de la viande séparée mécaniquement, de la couenne de porc, de la peau de volaille, des stabilisants, des exhausteurs de goût, des antioxydants, etc. etc. Bon. Je veux dire, il va falloir qu'on tourne le dos à ça. Déjà, il va falloir avoir plus... Il va falloir que l'industrie agroalimentaire, elle assume ses recettes. Ça, c'est tout l'enjeu, on en parlera peut-être du Nutri-Score. Les consommateurs veulent savoir ce qu'ils mangent et d'où ça vient. Ça, c'est un enjeu. Alors, sur des produits non transformés, il y a des filières qualité, que ce soit, j'ai dit, label rouge, etc. Mais ça, c'est pas la consommation au quotidien de tous les consommateurs.
Et donc, on n'en prend pas le chemin. Quand je vous entends, là, quand on parle de notre assiette en 2030-2040, est-ce que cette idée de traçabilité, les Nutri-Score, effectivement, sur lesquels on est en retard, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on en prend quand même le chemin? Ou est-ce qu'on vous a l'impression qu'on est en train de retourner en arrière.
Attendez, il y a des combats gagnés, au moins provisoirement. On a obtenu ce Nutri-Score, mais on voit très bien qu'il y a une grande partie de l'industrie agroalimentaire qui est vent debout. Elle est en train de mettre en place...
Il y a une partie qui l'adopte aussi.
Il y a une partie qui l'adopte, mais attendez, les grands de l'industrie agroalimentaire, hein, je peux citer les noms, on connaît tous, sont en train de brouiller les pistes en proposant une autre forme d'information du consommateur avec 11 paramètres, enfin bref, un truc comme on dit vulgairement, prise de tête pour le consommateur, qui fait qu'il n'a pas de visibilité sur l'équilibre ou pas nutritionnel du produit. Donc on voit qu'il y a des résistances très fortes dans cette appétence du consommateur à ne plus... il veut plus qu'on le fasse rêver. Je veux dire, la force du marketing, elle a maintenant ses limites. Le consommateur, il veut de l'authenticité, il veut avoir une garantie sur la qualité de ce qu'il mange, sur l'origine, sur la nature des produits. Et ça, je pense que ça sera une tendance sur laquelle il va falloir travailler sur le long terme.
Thierry Pêche, rapidement pour qu'on prenne l'auditeur derrière.
Rapidement, parce qu'on a parlé environnement, économie, éleveur, etc. On n'a pas parlé santé. La saucisse dont vous venez de parler, c'est-à-dire de la viande transformée, c'est le pire dans le registre de la viande. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Les autorités sanitaires nationales, internationales vous disent toutes si vous voulez manger de la viande, évitez le plus possible.
C'est peut-être la moins chère aussi d'ailleurs.
Et en particulier les salaisons. Bon, on sait qu'il y a des... Alors là, pour le coup, la causalité avec certains types de cancers, colorectal, la suspicion qui est portée entre ce type de surconsommation et d'autres pathologies, elle est assez évidente. Donc, si vous ne le faites pas pour l'environnement, faites-le pour vous. C'est ça le message que j'ai envie de transmettre.
Emmanuel, vous nous appelez de Limoges. Bonsoir, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Donc, je vous remercie de prendre la question. En fait, c'est pas une question, c'est juste une observation.
Allez-y.
Voilà, moi, je suis dans une région d'élevage, donc j'ai la chance de pouvoir acheter de la viande en circuit court de très bonne qualité. Mais surtout, ce qui me gêne, c'est que les gens ne prennent plus le temps de cuisiner chez eux. Ils sont débordés. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Enfin, on peut très bien trouver le temps. Moi, je cuisine tous les jours. C'est moi qui fais la cuisine à la maison parce que ma femme rentre très tard, donc on s'organise comme ça. Mais c'est surtout qu'on ne mange plus les bas morceaux sur une viande. C'est-à-dire sur une carcasse de 400 kilos d'une vache, en fait, on en mange 20%. Après, tout le reste, ça part pour l'alimentation animale, pour le fameux minerai où on fait dans les plats préparés. Et en fait, c'est peut-être pour ça qu'il faut produire plus de vaches. C'est-à-dire que si on remangeait comme sur un cochon, on disait que dans le cochon tout est bon, mais maintenant dans le cochon on mange que des côtes de, on mange le rôti et puis des côtelettes et puis tout le reste ça part. Enfin un jambon accessoirement. On mange plus les abats, on ne cuisine plus les abats, on ne cuisine plus ce qui était dit les bas morceaux. Donc forcément, on va être obligé de produire 10 fois plus. Si sur 400 kilos de viande, on en mange que 100, eh bien il y en a 300 qui servent à rien. Donc on est obligé de reproduire 3 vaches supplémentaires pour arriver au même, à la même quantité de protéines qu'on va ingurgiter. Mmh. Et alors, je voudrais réagir aussi autre chose.
Allez-y.
C'est que les gens ont du mal à comprendre, et moi je veux bien qu'ils viennent dans ma cuisine et je leur montrerai parce que j'ai été cuisinier longtemps. Si vous achetez un cochon à 1,50€ le kilo, comme je l'ai entendu sur des antennes de radio concurrentes, vous achetez de l'eau, vous achetez pas de la viande. Mmh. C'est-à-dire que si vous voulez une dose de 100 grammes pour votre enfant, si vous faites un sauté de porc, il va falloir acheter 400 grammes de viande parce que vous n'avez acheté que de l'eau.
Oui,
vous n'avez pas acheté de la viande. Et donc quand vous allez la faire cuire, il n'y a plus rien à la fin. Vous n'avez que de l'eau.
Emmanuel,
donc, achetez plus cher, mais achetez de meilleure qualité parce que vous n'aurez pas d'eau dedans. Vous aurez de la viande.
Emmanuel, voilà. Merci beaucoup pour vos remarques. On a compris où vous vouliez en venir. Et effectivement, et peut-être qu'on y viendra, le porc ou autre chose à 1,50€, forcément, il n'est pas bon. Enfin, je veux dire que les choses soient très claires, ça ne peut pas être bon. Je voudrais revenir sur ce que nous disait Pascal à l'instant, tiens Thierry Pêche, sur le fait que finalement, on mange rien aujourd'hui dans la viande, qu'on pourrait manger en tout cas. On prend que les morceaux nobles, disait-il. C'est vrai ça ou pas?
Ah oui, on jette énormément. Mais c'est la question du gaspillage.
On jette ou on gâche? C'était ça le sens de ma question. Qu'est-ce qu'on en fait après?
Les deux, on jette et on gâche. C'est pour ça d'ailleurs qu'on compte la consommation par habitant en kilos équivalent carcasse. Pour tenir compte de tout ce qui est produit, pour finir par manger un steak haché. La moitié de la viande de bœuf qui est vendue dans les hypermarchés, c'est du steak haché. Voilà ce qu'on fait des vaches et des bœufs. Bon, le reste part pas toujours à la poubelle, mais part à des usages qui sont moins
noble,
intéressants.
Ce
que je
guillemets.
Trouve très intéressant, ce que dit Emmanuel, c'est qu'il parle comme un cuisinier. Et un des enjeux qu'on a devant nous, c'est de former des cuisiniers à produire une autre alimentation. C'est une des propositions qu'on fait dans notre rapport. Et on connaît les grands cuisiniers, on a l'image du noble du cuisinier. Mais le cuisinier de la restauration collective, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas souvent, pour qui on a parfois un peu de mépris d'ailleurs. Si on le formait mieux, s'il apprenait lui à servir une autre alimentation, une alimentation plus riche en protéines végétales, moins chargée en viande, avec de la meilleure viande, sans contraindre son budget, vous voyez. Eh bien, je pense qu'on aurait fait un grand pas en avant. Donc, je trouve que la parole d'Emmanuel est d'or. Il parle d'or.
Oui, mais il y a quand même un problème de budget. Et celui qui tient le budget, c'est l'intendant. Et il faut aussi former les intendants. Et c'est vrai que l'enjeu de la restauration collective, ce sont des centaines de millions de repas qui sont servis.
Donc c'est pas 7 millions d'enfants mangent une fois par semaine à la cantine.
C'est absolument
au moins une fois.
C'est absolument énorme. Et là, il y a un enjeu à ce qui est de l'équilibre également nutritionnel. Quand on regarde aujourd'hui les repas qui sont servis dans le secondaire, on vient de faire une étude. Ben on se rend compte qu'il y a quand même un problème de fort déséquilibre. Alors, c'est lié peut-être des contraintes budgétaires ou des fausses contraintes, et puis un manque de sensibilisation et de connaissance des gestionnaires des établissements.
Et justement, tiens, voilà Pascal. Bonsoir Pascal, vous êtes pile dans le sujet de l'instant, soyez le bienvenu.
Bonsoir. Oui, quelle belle transition, Fabienne.
N'est-ce pas? Quel talent, vous pouvez le dire.
On passe de ce que monsieur vient de dire voilà, oui, je suis professeur en lycée hôtelier. Et j'ai des élèves qui sortent de collège et qui rentrent en seconde pour passer un bac professionnel. Et mon fer de lance de tous les jours, c'est de parler des produits. D'ailleurs, je suis co-auteur sur un manuel scolaire et forcément, nous parlons que de produits, quasiment, hein, bien sûr, des techniques professionnelles, mais pas que de ça. Et lorsque tout à l'heure, la personne que j'ai eue au téléphone m'a posé quelques questions, je parlais de l'éducation des enfants et je suis véritablement de plus en plus, je fais ma 30e rentrée à septembre. Et je trouve vraiment tous ces jeunes vraiment incultes et par la nourriture. Parler d'une endive, c'est infernal. Ils savent même pas ce que c'est qu'une endive. Une vache, ils l'ont vu qu'à la télé.
Attendez, vous me faites peur, Pascal. Est-ce que vous parlez aussi des gamins à qui vous enseignez dans votre lycée hôtelier qui n'ont jamais vu une vache qu'à la télé?
Bien sûr. Et donc ces jeunes sont vraiment perdus parfois. Alors lorsque on parle de produits, je me disais que peut-être l'éducation nationale, plutôt que se pencher sur des programmes, et d'ailleurs on pourrait parler de la Commission nationale des programmes qui se penche sur l'écriture inclusive, plutôt que de penser à ce genre de choses, ils pourraient peut-être penser à savoir mettre dans les programmes quelques cours, simplement des interventions en petite section, voire jusqu'au collège, sur la nourriture, les produits, goûter, pratiquer, toucher,
sentir,
malaxer, voilà, avoir vraiment et voir des produits que nous, éventuellement, nous serions prêts, nous, professeurs en lycée hôtelier, à intervenir dans ces maisons, mais aucun moyen n'est mis en place. On pourrait vraiment... Il y a eu les fameuses semaines du goût pendant quelques années.
Oui, ça n'existe plus, les semaines du goût.
C'est en train de s'éteindre, véritablement. Alors, en vérité, oui, bien sûr, elles peuvent exister, mais c'est tellement ponctuel et dans quelques régions éventuellement, mais ça ne fait plus partie vraiment. Nous, je peux vous dire, dans mon établissement, nous n'avons plus la semaine du goût pratiquée.
Ça veut dire qu'il y a encore des gamins qui pensent qu'il y a des poissons carrés avec des yeux dans les coins, quoi.
Exactement. Lorsque moi personnellement, je sors 4-5 variétés de salades pour leur faire sortir une trévise ou une feuille de chêne ou une laitue tout simplement, c'est pas simple. Je peux vous dire véritablement, c'est moi qui sors les mots. Ce ne sont pas véritablement eux qui les sortent.
Merci. Pardon.
Et je pourrais en passer des pires et des meilleurs. Sans compter tout à l'heure, monsieur parlait de la saucisse et des produits charcutiers. Je peux vous dire que bon, bien sûr, quand il y a des produits qui sont de bas de gamme comme ceux-là, on pourrait parler aussi même parfois de. Il parlait de la belle rouge. J'ai cru entendre. On a des produits qui sont classés AOC ou AOP. Et je peux vous dire que quand on lit les chartes qui définissent le classement en AOC ou en AOP, parfois on se demande ce que Lactalis vient faire par ici. Je veux dire, excusez-moi, mais je vais attaquer un gros groupe. Je pense que ces gens-là sont inattaquables, soi-disant. Je pense qu'il va falloir en parler de plus en plus.
Alors moi,
ils sont sur un marché vraiment énorme, quoi.
Voilà, moi j'ai aucune action ni chez les uns ni chez les autres, mais chaque question et chaque problématique en son temps. Merci beaucoup Pascal pour votre question. Éric Burlouès, je vous voyais réagir,
oui,
effectivement.
Mais ce que disent les deux derniers auditeurs est très intéressant. Ils montrent bien à quel point en deux décennies, tout a changé. Les modes de vie, les rythmes de vie, le système alimentaire. Et je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui, non pas de donner quelques cours aux enfants pour leur apprendre à reconnaître les pommes de terre et les tomates, mais de rendre obligatoire dans les programmes d'enseignement une véritable culture alimentaire pour redonner du sens à l'alimentation. Le problème de l'alimentation, c'est qu'elle a perdu toute sa valeur culturelle, humaine, même monétaire. On paye de moins en moins globalement pour l'alimentation, pourcentage des dépenses. Et ça, vraiment, je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et alors, au travers d'ateliers cuisine, de rencontres de professionnels, d'ateliers de jardinage dans les cours d'école. Enfin, il y a mille choses qui peuvent être imaginées.
Alain Bazo.
Oui, alors je veux pas être contre le discours qui consiste à dire qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation. Étant moi-même enseignant, ce serait nier les vertus de ma profession. Mais il faut quand même être assez réaliste. Faut pas sous-estimer la puissance marketing de l'industrie agroalimentaire. Et les discours tout le temps paradoxaux que reçoivent les jeunes, entre le discours des enfants venant des parents, quand les parents ont un niveau suffisant pour faire de l'éducation, parce qu'aujourd'hui même les parents sont complètement perdus. Il y a un problème d'offre de l'industrie agroalimentaire. Quand vous avez dans du lait des vitamines qui sont ajoutées, quand vous avez dans du jus de fruits, on vous ajoute du calcium. Les repères nutritionnels, mais ils sont complètement brouillés. On ne sait plus qu'est-ce qu'il y a dans quoi. Donc ça, il y a déjà un premier problème de l'offre alimentaire par l'industrie agroalimentaire. Parce que je persiste à dire que la réalité, c'est qu'on mange essentiellement des produits transformés. Alors je veux bien qu'on va se remettre un petit peu au fourneau, cuisiner, apprendre à faire des sauces de salade, etc. Mais il faut quand même être assez réaliste. Et puis il y a la promotion faite par le marketing. Et il se trouve, on a des études très précises là-dessus, que comme par hasard, c'est les produits les plus déséquilibrés, les plus gras, les plus sucrés, les plus salés, qui sont massivement promus par les industriels et auprès des jeunes populations. Donc ça devient très compliqué d'avoir la libre maîtrise de ces choix, parce qu'on n'est pas éclairé. Il y a très peu de budget pour la formation, l'éducation, et puis il y a des budgets colossaux pour vous instrumentaliser, vous faire acheter des choses en vous brouillant les pistes. Donc oui. C'est ça qu'il faut réduire.
Mais c'est l'éveil
le marketing vers les enfants,
qui va permettre
il faut,
de faire la pression.
Il y a beaucoup de pays qui ont carrément supprimé l'autorisation de faire de la publicité à destination des enfants pour des produits qui sont déséquilibrés. C'est ça aussi l'avenir. Améliorer l'offre alimentaire, ça c'est en mettant une visibilité sur le contenu. Si c'est trop gras, trop salé, le consommateur le voit. Et puis voilà, on va pas promouvoir auprès des jeunes enfants des produits qui sont mauvais pour la santé. Il y a l'enjeu, c'était dit tout à l'heure, d'obésité. C'est un enjeu pour l'avenir. Hein. Quand on voit la courbe, on dit que l'obésité décroît. C'est pas vrai. C'est l'augmentation qui est plus faible. Mais on a un problème d'épidémie.
Elle s'est stabilisée hein, au cours des dernières années, chez les adultes comme chez les enfants.
Dans nos pays, ici en France, hein, on est d'accord.
Oui, pas ailleurs.
Thierry Pech.
Oui, non, je voulais revenir sur l'idée que, parce que tous les débats en France se finissent à peu près comme ça, il faudrait changer les programmes scolaires et tout serait résolu.
Alors, bon, j'allais dire, oui, à la maison aussi, on peut peut-être expliquer ce que c'est qu'un légume.
Hein, je pense que le cours d'éducation alimentaire, c'est le repas. C'est pas autre chose. Et donc, dans les restaurants collectifs, en entreprise, à l'école, et singulièrement avec les petits. Parce que les petits, ils n'ont pas les blocages qu'ont les adolescents, qui ont... voilà, c'est difficile de faire manger une endive braisée à un adolescent. Avec un petit, on peut faire des choses. On peut lui raconter le monde à travers l'alimentation. On peut l'aider à adopter des comportements alimentaires qu'il ne connaît pas. Ils aiment la découverte, les enfants. Et donc, il faut que les personnels polyvalents des cantines, les cuisiniers, les enseignants, se mettent autour de la table, pas autour d'un livre, autour de la table.
C'est pas ce que je voulais dire. Parce que
c'est un plaisir de manger, c'est un plaisir qu'on partage avec d'autres. Donc, faut partir de là. Toutes les transitions alimentaires qui partent de la culpabilisation, de l'intellectualisation, sont vouées à l'échec. Il y a une très forte inertie de ces pratiques-là parce que ce sont des pratiques de plaisir et des pratiques sociales. Donc, passons par ce chemin, le repas.
Anthony nous appelle au 01 45 24 7000. Anthony, bonsoir, soyez le bienvenu. On vous écoute.
Merci à vous. Donc je suis fils d'éleveur, chauffeur routier, donc pas vraiment un bobo. Pourtant, je suis vegan. On me fournit extrêmement...
Vous êtes un fils d'éleveur vegan ?
Je suis un fils d'éleveur, oui, et qui est vegan.
Vous avez été déshérité ?
Non, du tout. Non, ils comprennent très bien et j'arrive très bien à manger avec eux à la table le dimanche.
Allez-y, Anthony.
Donc je me fournis sur les marchés d'abord et ensuite à la Biocoop. Je ne suis pas pour la viande in vitro et autres substituts de viande. Je consomme bio, non pas pour moi, mais pour la planète. Ma question, la consommation végane n'est-elle pas la solution pour la consommation planétaire de demain ? Et autre question subsidiaire, est-il vrai qu'une consommation végane nourrirait 3 fois notre planète ? Merci à vous.
Eh bien écoutez, merci pour ces questions très précises, Eric Birouez. Est-ce que si on était tous végans, ça
sauverait la planète ? Non, pour moi
absolument
pas. Alors il y a d'une part ce que je vous disais, ce serait une catastrophe si l'élevage disparaissait de la surface de la planète. Il faut se rendre compte, alors bien sûr on dit c'est pas faux, mais il faut pas raconter non plus n'importe quoi. On dit que l'élevage utilise des quantités considérables de sol, mais il utilise aussi des sols sur lesquels de toute manière on ne pourrait absolument rien produire d'autre. On parle beaucoup, c'était aussi dans le rapport de Terra Nova, du prélèvement énorme d'eau pour produire un kilo de bœuf, 15 000, hein, vous le notez,
c'est
13 000.
C'est un point controversé. 13 000,
c'est excellent. Il n'y a pas plus controversé et plus contesté par la communauté scientifique. Donc ce que je veux dire, quand on est sur des domaines aussi complexes que, par exemple, l'impact de l'élevage sur l'environnement, on ne peut pas raconter n'importe quoi, on ne peut pas balancer des chiffres qui n'ont absolument aucun sens, on compare ce qui n'est pas comparable. Et ça, je trouve ça extrêmement énervant parce que on n'avance pas, on est dans des discours idéologiques et pas du tout dans des discours constructifs d'amélioration de la situation.
Thierry Pech.
Moi, je vais reprendre sur cette question de la statistique qui a fait débat avec le lobby de la viande, de la viande rouge. Il y a deux façons de compter les besoins en eau pour produire de la viande. Soit on compte les eaux de pluie.
Ce qui est ridicule.
Non, c'est pas ridicule.
C'est ridicule,
permettez-moi de finir. C'est pas ridicule si on fait pareil pour les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le chiffre dans l'absolu, c'est l'effort relatif entre les aliments quand on les compare. Il faut 5, 6, 10 fois plus d'eau pour produire un kilo de bœuf que pour produire un kilo de céréales. C'est ça qui compte à la fin.
Oui, mais
si vous considérez
si vous enlevez l'eau de pluie, absolument pas.
D'accord,
c'est entre 550 et 700 litres d'eau
si
par kilo de bœuf.
Si 500
pour le riz,
que l'eau
300
est,
pour les...
est un produit en abondance qu'on ne doit pas compter, alors on s'en fiche.
Non, mais c'est
et
de
si
l'eau
vous,
de pluie.
Si vous pensez qu'au contraire, c'est un produit qui doit être dépensé avec précaution, ce qui est évidemment votre opinion, ce qui compte, c'est la comparaison entre l'empreinte en irrigation des aliments les uns par rapport aux autres. Bon, mais on va pas passer la soirée
non,
peut-être
mais sur
ces
moi,
chiffres.
C'est tellement un truc
je
de
veux
bon
juste
sens.
Revenir sur l'histoire des véganes. Moi, je pense que c'est une position philosophique, éthique, tout à fait respectable, et pour laquelle moi j'ai le plus grand respect. Il faut quand même reconnaître qu'on abat un nombre d'animaux absolument incroyable. Plus d'un milliard d'animaux abattus par semaine dans le monde aujourd'hui. Plus de 60 milliards d'animaux abattus par an. Donc ça pose une question sérieuse d'éthique. Et je pense que là, il faut... Enfin, moi, en tout cas, j'ai le plus grand respect pour cette attitude. Ça n'est pas la mienne.
Mais est-ce que le véganisme est la solution?
C'était
ça
le
principe de la question d'Anthony.
On vit dans des sociétés de pluralisme alimentaire et qui vont le rester longtemps. Simplement, il faut qu'elles deviennent raisonnables. Voilà. La solution végane, je n'y crois pas. Évidemment qu'on pourrait faire des miracles si tout le monde était végane. Mais vous savez, ça suppose quand même une certaine discipline sanitaire pour soi-même.
Bien sûr, l'homme est quand même omnivore. Et je veux dire, le fait qu'il ait des protéines animales, encore une fois, moi je suis sur la même position de dire que c'est une approche philosophique, éthique par rapport à l'animal, mais par rapport à aux besoins humains de consommation, la solution elle passe vers un meilleur équilibrage entre la protéine animale et végétale. Maintenant, quelqu'un qui veut pas du tout de protéines animales, mais le véganisme, ça va au-delà, puisque c'est ne pas consommer tout ce qui vient de l'animal.
Il y a une forme de philosophie derrière le véganisme qui va bien au-delà d'effectivement ne pas manger de viande. Tiens, Thierry Pêche, c'est une question pour vous. À titre indicatif, quelle serait la quantité idéale de viande qu'il faudrait consommer par personne sur Terre pour revenir à un fonctionnement durable et équitable?
Bon, ça, c'est très compliqué. Ça dépend beaucoup de la viande que vous consommez, si elle est transformée, pas transformée, si c'est de la volaille ou du bœuf. Ce que dit la FAO, qui est un bon repère, c'est qu'il nous faut 0,8 g de protéines par kilo par jour. Donc si vous faites 100 kg, il vous faut 80 g de protéines. Aujourd'hui, les deux tiers de ces protéines viennent de l'animal. C'est trop. Si on arrivait à 50-50 ou à inverser le rapport, ce serait idéal. Donc si vous mangez deux fois de la viande par jour, une fois ça suffit, ce sera votre part à l'effort. Et si vous en mangez 5 fois par semaine, vous pouvez essayer 3, ce ne sera pas un scandale. Et vous aurez votre content de protéines, parce qu'en fait, on l'a très rapidement.
Et c'est le mot de la fin, la dernière bouchée d'une certaine façon du téléphone. Je voudrais saluer Florence, qu'on n'a pas eu le temps de prendre au téléphone, mais qui nous dit qu'elle est blogueuse culinaire et qu'elle est passée au bio. Elle dit qu'elle a les moyens, mais que dans l'idéal, tout le monde devrait passer au bio dans 20 ans. Il faudra du coup faire un effort sur les prix. Voilà, je la salue puisque j'ai pas eu le temps de la prendre au téléphone. Merci à tous, en tout cas, pour d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci bien sûr pour vos questions.